verras, aucun homme ne peut résister à la couleur du henné, me dit Farida. Je souris. Je suis la danse de ses doigts au-dessus de ma tête, séparant chaque mèche du reste de ma chevelure avant de l'enduire d'une couche épaisse depuis sa racine. De son visage, je ne vois que ses lèvres charnues, colorées de carmin, son menton rond, la courbe ample de son cou. De son corps, ses épaules pleines, sa poitrine généreuse que je lui envie tant, sous la gandoura. Tout en appliquant la pâte, elle me vante son pouvoir magique. C'est la meilleure. Elle vient de l'oasis Ouargla. C'est ma belle-sœur qui me l'envoie. Les bienfaits qu'elle va procurer à mes cheveux. Regarde, ils sont tout pâles. Et ces racines blanches qui commencent à pousser sur les côtés, c'est de la mauvaise herbe. Aujourd'hui est un bon jour pour le henné. Je lui demande pour quelle raison, le vendredi en particulier, elle me répond que c'est un jour porte-bonheur, comme le lundi, que les autres jours n'attirent que le malheur. Elle m'a installée sur une chaise de récupération, un peu de guingois, devant la porte de sa baraque, recouvert les épaules d'un drap de bain. À un clou sur le mur en planche est accroché un miroir que ma tête et le haut de mon corps remplissent. Autour de nous, le bidonville s'est animé. Assises sur des bidons en plastique, des femmes bavardent haut et fort sans nous prêter une réelle attention. À l'écart, des enfants jouent à même la terre en la soulevant. J'essaie de ne pas bouger, de garder le dos droit, la tête relevée. C'est un bel après-midi d'automne, sans vent. Le soleil chauffe comme un vieux poêle. Nos ombres s'étalent sur le sol terreux. Celle de Farida, immense, enveloppe la mienne. Entre ses mains, j'ai la sensation d'être l'une de ces poupées que l'on apprête. Elle dit « Il faut 2 bonnes heures pour que le henné prenne. J'espère que tu n'es pas trop pressée. » Je laisse échapper un soupir de satisfaction. Fais non de la tête. Le temps s'écoule dans les cris des enfants et le flux ininterrompu des conversations auxquelles elle se mêle par intermittence. Nous buvons du thé à la menthe, croquons des galettes de blé qu'elle a préparées. Lentement, le soir nappe le jour. Farida entre dans la baraque, en ressort avec une bassine. Elle se rend au point d'eau à quelques mètres de nous, la remplit, revient près de moi, me commande de me pencher au-dessus du récipient, rince longuement et abondamment ma chevelure, puis l'essuie, la frottant énergiquement avec le drap de bain qu'elle noue autour de ma tête à la manière d'un turban. Dit « Tu me le rapporteras la prochaine fois ». À mon arrivée, Paul Dominique est devant sa télé, fidèle spectateur de je ne sais quelle émission qu'il suit chaque soir avant le repas. J'ai dénoué le drap de ma tête avant d'entrer. Il tourne légèrement le regard vers moi, ne relève pas la nouvelle couleur de mes cheveux, la remarque-t-il même ce soir-là. Je ne saurais l'affirmer. Je prépare son dîner, l'appelle à passer à table. De son visage, je ne vois que sa bouche qui s'ouvre et se ferme au rythme de la nourriture qui l'engloutit, ses mâchoires qui mastiquent à n'en plus finir, ses lèvres souillées qui l'essuient, vieille manie, avec un morceau de pain qu'il avale ensuite. Le reste de son visage est plongé dans l'immobilité, ni regard, ni expression qui trahissent la moindre réaction. Même les premières années après notre mariage, il n'a jamais été attentif à ces détails qui marquent la vie de ceux qui l'entourent. Invisible à ses yeux ou rendu comme tel. Non par volonté, encore moins par rejet, mais juste par insensibilité, au sens le plus physique du terme. Il ne les voyait pas, ne les entendait pas. Pour lui, ils étaient comme la pluie qui battait à nos fenêtres lorsqu'elle était trop forte ou le souffle du vent qui sifflait dans les branches des arbres sur la place devant notre maison. De simples bruits blancs. Quand nous étions encore au village, en Corse, il rentrait dès sa journée de berger terminée, souliers crottés de terre, bonnet de laine enfoncé au ras des sourcils, traits tirés de lassitude, épaules tombantes recouvertes de fatigue. S'assoyait à la table de la cuisine, à cette place immuable, où je l'ai toujours vu rouler son tabac entre ses doigts épais, adossé au mur. Il dînait de ce que j'avais préparé, ne rechignait jamais sur rien, ni sur le goût, ni sur la quantité, buvait un verre de vin coupé d'eau, puis fumait sa cigarette, debout, devant la cuisinière à charbon, et allait se coucher tôt. Je tardais souvent à le rejoindre. J'attendais bien après l'endormissement des enfants, des aiguilles à tricoter entre les mains, une pelote de laine se dévidant sous mes doigts agiles. Les nuits d'hiver, je me collais à lui. Son corps soufflait sa chaleur sur le mien. De temps en temps, il me prenait, sans brutalité, ne me forçait jamais. Le jour où il me déflora, c'est à peine si je sentis son sexe déchirer mon hymen. Il me pénétrait comme il vivait, ne se préoccupant pas de ma jouissance. Une fois, je m'étais laissée tenter par une robe violine du plus bel effet, une couleur que je n'avais jamais portée auparavant. Un vêtement de coton peigné, de demi-saison, taillé juste au-dessous du genou, soulignant mes formes discrètes, dégageant entièrement la nudité de mes bras. Une folie que je venais de m'offrir aux dames de France dans ce rayon de prêt-à-porter féminin où j'avais l'habitude de me rendre pour découvrir les nouveautés, telle une enfant devant un stand de joujoux. Lorgnant les modèles présentés sur les mannequins de cire, évaluant les coupes, touchant les matières, détaillant les ornements, collerettes, surpiqûres et autres froufrous qui embellissaient l'ensemble, m'attardant sur la qualité des attaches dorées ou nacrées qui boutonnaient ou ceinturaient le vêtement. Paraissant cette cliente attentive qui se livrait à une minutieuse auscultation avant de faire son choix, attirant inévitablement le regard des vendeuses, laissant venir l'une d'elles à ma rencontre, pimpant à souhait, sa démarche chaloupée, sa coiffure laquée, son maquillage sans fausse note, son petit nom inscrit sur la pochette de sa blouse rose bonbon, et me dire cette phrase que j'avais déjà entendue des dizaines de fois. « Cela ne vous coûte rien d'essayer ?» Moi, refusant poliment, me trouvant 10 raisons que le vêtement n'aille pas à ma taille, à ma silhouette, mes seins trop menus, mes épaules trop maigres, mes hanches trop basses, mes jambes en baguette, puis quittant le magasin comme on traverse un champ de ruines. Hâtant le pas, les yeux furetant le sol et rentrant chez moi, en proie à 2 états contraires, le regret, mon vieil ennemi, et ma bonne conscience de ne pas avoir cédé à la tentation. Ce jour-là, Nanciad m'accompagnait. Nanciad, notre unique fille dans l'éclatante fraîcheur de ses 16 ans. Nanciad, sa façon de regarder le monde avec désinvolture, son caractère trempé. À côté d'elle, je paraissais presque l'une de ces petites filles trop sages qui torturaient encore leurs nattes et fuyaient le regard des adultes. Nanciad, qui m'a mis la robe violine entre les mains. Et c'est ça, moi, rien qu'à voir la coupe, la couleur vive, pensais « Non, je peux pas porter ça, c'est pas pour moi. » Nanciad qui insistait « Maman, et c'est là, je te dis, fais-moi plaisir. » M'entraînait jusqu'à la cabine, refermait le rideau derrière nous, m'aidait à enfiler la robe, passait dans mon dos pour remonter la fermeture éclair d'un geste assuré, me prenait par les hanches, me faisait faire un demi-tour, mannequin à sa merci. « Alors, qu'est-ce que t'en dis ?» Moi, muette, entre gêne et ravissement, elle, tout à son triomphe, « On est d'accord, elle est faite pour toi !» Rouvrait le rideau, m'attirait à l'extérieur de la cabine, mes joues écarlates, des clientes dans le rayon, témoins du manège, une vendeuse s'approchant avec un sourire de satisfaction, Nanciad lui disant « On la prend », m'ordonnant « Tu la gardes sur toi ». Nous étions rentrés le pas léger des jours heureux. Dans chaque vitrine de magasin, je lorgnais le reflet de ma silhouette, le rouge du plaisir sur mon visage. À notre retour, Paul Dominique était déjà couché, éreinté par sa journée de travail. Nous avions dîné en tête-à-tête comme 2 amis intimes. « J'avais gardé la robe sur moi, tu es belle », répétait-elle pendant notre repas. Puis nous sommes allés dans la chambre que Paul Dominique et moi partagions avec elle. Nanciad a rejoint son lit cosy. Je l'ai embrassé, serré contre moi. Et j'ai tiré le grand rideau rouge qui l'isolait de notre alcôve. Paul Dominique, endormi, reposait tel un poids lourd sur le matelas, son pantalon de pyjama serré à la ceinture, son ventre bedonnant sous son marcel. J'ai allumé la veilleuse. Je me suis regardée un long moment dans la glace de l'armoire, tournant plusieurs fois sur moi-même, comme dans la cabine d'essayage, encore soumise aux mains de Nanciad. J'ai ôté enfin la robe, l'ai suspendue à l'intérieur du meuble, à ce cintre de bois blanc qui resterait le sien. Il m'est arrivé de la porter certains dimanches et jours de fête. Paul Dominique, lui, ne m'en a jamais rien dit, comme si elle avait toujours été là, égarée dans cette armoire,